Vous écoutez On lit pour vous.
La mesure du temps, un texte signé Monique Durand, publié dans Le Devoir édition des 11 et 12 juillet 2026. Le temps est un grand livre dont les pages tournent au vent des jours, un calendrier sans fin dont les dates, une fois périmées, se dissolvent pour ne plus revenir et dont celles à venir s'étendent sur un horizon indiscernable. Chaque fin d'année marque un rituel pour nombre d'entre nous. Se procurer un calendrier des 12 mois qui viennent, affichant des paysages, des oiseaux, des fleurs, des autos, des motos, et jusqu'à de jolies femmes aux lèvres gourmandes punaisées dans le fond d'une station-service. Les calendriers sont payants ou gratuits, sobres ou fantaisistes. Vieux calendriers écornés qu'on hésite à déchirer comme les vieilles lettres d'amour. Ou, au contraire, qu'on se dépêche à déchiqueter quand l'année terminée fut horribilis. Annus horribilis, mot devenu célèbre prononcé par Élisabeth II pour décrire l'année 1992 qui en fut une désastreuse pour la famille royale. Parler du temps, c'est parler de la façon dont les humains ont cherché à le mesurer. Les mouvements du soleil et les déplacements de l'ombre, le retour des saisons ou les cycles de la lune, guillemets, ont servi de première référence, mentionne la page Wikipédia de l'histoire de la mesure du temps, pour organiser la vie agricole, sociale et religieuse des sociétés. Fin des guillemets. Les façons de mesurer le temps ont évolué selon les époques et les avancées de la connaissance. Gnomon, clepsydre, sablier et autres cadrans solaires se succéderont jusqu'aux horloges atomiques d'aujourd'hui. L'un calendrier à l'autre. Dans les temps anciens, on comptait généralement les années à partir de l'année d'intronisation du souverain régnant. Les Romains ont préféré, eux, les compter à partir de la fondation de Rome. Sous Jules César naît ainsi le calendrier julien. 5 siècles plus tard, en l'an 525, sous l'empereur Justinien, et à la demande du pape Jean Ier, un moine astronome du nom de Denis le Petit bouleverse tout en proposant de faire de l'année de la naissance du Christ, l'an 1, d'un nouveau décompte du temps. C'est lui qui décide que Noël tomberait un 25 décembre. Cette façon de mesurer le temps sera bientôt adoptée quasi universellement pour des raisons de commodité et de commerce. Et pourquoi faire démarrer le décompte du temps à partir de la naissance du Christ? Parce que l'Empire romain est devenu chrétien et que l'Église catholique, alors d'une influence prépondérante, a réussi à imposer cette datation. 10 siècles après les travaux de Denis le Petit, en 1582, le pape Grégoire XIII fait adopter le calendrier grégorien afin de corriger les inexactitudes scientifiques du calendrier julien. Le calendrier grégorien est encore en vigueur dans la majeure partie du globe aujourd'hui. Fait cocasse, la transition du calendrier julien au calendrier grégorien aura pour effet que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 sera le vendredi 15 octobre 1582. L'écrivain Pascal Guignard raconte que Sainte Thérèse d'Avila rendra l'âme dans l'entre-deux. Citation, « Elle mourut l'un des 10 jours qui n'existèrent pas. » Fin de citation. Haute étrangeté de l'histoire. Il y eut même un calendrier républicain adopté en 1793 au cours de la Révolution française. Il associait chaque jour à un produit du terroir. Napoléon Ier remit en place le calendrier grégorien en 1806. Une constante demeure. L'humain reste fasciné par le temps qui passe inéluctablement, le seul élément sur lequel il n'a aucune maîtrise. Citation. Alors, à défaut d'avoir une quelconque influence sur lui, il le mesure, toujours plus précisément. Note de bas de page. C'est un extrait du site lepetitpoussoir.fr, l'histoire de la mesure du temps. Fin de la note retour au texte. Les humains inégaux face au temps. Face au temps qui passe, les humains ne sont pas égaux. La jauge de la longévité n'est pas au même niveau pour toutes et tous. Un enfant qui naît aujourd'hui au Tchad ou au Nigeria vivra en moyenne 30 ans de moins que son semblable au Japon et 25 ans de moins qu'au Canada. Cela pour toutes sortes de raisons, comme l'accès à l'eau potable, aux soins et aux vaccins, l'alimentation, les conditions de logement et de travail. Note. Observatoire français des inégalités, juillet 2024. Retour au texte. Citation « Je suis déjà une vieillarde », m'avait dit la militante et féministe rwandaise Marie-Immaculée Ingabire lorsqu'elle n'avait pas encore 45 ans. « Je ne vivrai pas aussi longtemps que vous ». Fin de citation. Marie-Immaculée, dont je n'ai jamais oublié la force d'être, avait présidé Transparency International Rwanda. Elle est décédée il y a quelques mois, à l'âge de 63 ans, soit l'exact échelon de l'espérance de vie moyenne en Afrique, situé en 2023 à 62,99 ans. Note, site atlassociaux.com, juillet 2023. Plus près de nous, une étude récente de Statistique Canada révèle que l'espérance de vie des membres des Premières Nations est de 77 ans et celle des Inuits de 72 ans, comparativement à 85 ans pour les non-autochtones. Autre étude éloquente, celle du sondeur Alain Giguère dans L'État du Québec 2026. Cette fois, à propos du rapport que les Québécois entretiennent avec le temps. Lecture de la note. L'État du Québec 2026, Penser le temps autrement, édition somme toute Le Devoir. Fin de la note, retour au texte. Citation, le rapport de la population québécoise au temps, écrit-il, est traversé par quelques tensions, nostalgie du passé, surcharge du présent et incertitude face à l'avenir. Ellipse. Cette perception temporelle s'accompagne aussi d'un sentiment d'accélération largement partagé. Fin de citation. L'hyperconnexion, à laquelle s'ajoutent de hautes exigences de performance, alimente une impression de saturation de trop-plein, si bien que près d'un Québécois sur cinq affirme passer sa vie à courir. Bras de fer permanent avec le temps, citation, dans une spirale d'urgence et d'obligation. Fin de citation. Alain Giguère conclut en décrivant un Québec où, citation, la gestion du temps est vécue comme un enjeu existentiel, révélant un besoin criant de ralentissement, de recentrage sur soi et ses proches. Fin de citation. Il dépeint une société à la fois lucide et déchirée entre la fatigue de vivre dans un monde qui va trop vite et la volonté de s'y adapter. Patience dans l'azur. Citation. La Terre flotte autour de notre étoile, le Soleil, depuis déjà 4,5 milliards d'années et devrait poursuivre sa trajectoire pendant une durée comparable. Fin de citation, explique Laurie Rousseau-Neptune, d'origine Innu, première femme autochtone canadienne à avoir obtenu un doctorat en astrophysique. Citation, l'astronomie a un côté apaisant, poursuit-elle, en raison des temps astronomiques qui nous invitent à la patience. Fin de citation. Note, extrait de l'État du Québec 2026, Penser le temps autrement, édition somme toute, Le Devoir. Retour au texte. Comment ne pas penser ici au titre si beau d'un livre de l'astrophysicien Hubert Reeves, Patience dans l'azur, point d'interrogation. Citation. Personne ne sait vraiment ce qu'est le temps, écrit-il. Quand on le talonne de trop près, il mène droit au mystère. Fin de citation. Note. Patience dans l'azur, Hubert Reeves, édition Point, 2014. Les mots du titre de ce livre sont empruntés à un poème de Paul Valéry intitulé Palme. Retour au texte. Est-elle partie dans l'azur, cette amie mourante dont j'ai tenu la main? Durant toutes ces années passées dans un CHSLD, s'exerçait-elle à la patience dans l'azur ou elle s'envolerait? La patience du gruau le matin, la patience d'une chaise où dormir une partie de la journée, la patience d'une marchette à pas lents où se recourbaient ses épaules, la patience d'une crème glacée aux fraises offerte par un personnel attentionné au milieu de la cour des miracles? S'éprouvait-elle avant d'aller naviguer dans des mondes nouveaux? Tandis que je tenais sa main, de sa fenêtre on voyait, aux arbres, éclater les bourgeons et pousser à vue d'œil les feuilles tendres du printemps. Nous étions dans la chair même du temps, vie et mort emmêlées, toujours recommencées. Fin de ce texte de Monique Durand, titré « La mesure du temps », publié dans Le Devoir du 11 et 12 juillet 2026.
L'héritage vivant de VLB Éditeur. Une entrevue réalisée par Annabelle Moreau, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Au Québec, une maison d'édition qui franchit le cap du demi-siècle est plus qu'une entreprise culturelle. C'est un pan entier de l'histoire littéraire et politique. Discussion avec le directeur de l'édition actuelle, Alain-Nicolas Renaud. Ce qui est intéressant avec une maison qui a de l'âge comme la nôtre, explique Alain-Nicolas Renaud, c'est que ce passé, le fait que ce soit la maison de Victor Lévy-Beaulieu, mais également celle de Jacques Lanctot, nous rassérène dans certaines décisions, parce qu'on ne parle pas seulement pour nous, mais aussi pour ce que cette maison a représenté et continuera de représenter après nous. Ironiquement, Alain-Nicolas Renaud a passé plus d'années à VLB Éditeur que son illustre fondateur. Une quinzaine d'années pour Renaud, alors que le plus célèbre des pistolois y a été à l'œuvre moins d'une décennie. Victor Lévy-Beaulieu fonde sa maison éponyme en avril 1976. Il est accompagné de 5 acolytes non moins illustres, Gilbert Larocque, Michel Garneau, Jean-Claude Germain, Claude Lévesque et Léandre Bergeron. Ce sont eux qui signeront les premiers titres, notamment le tout premier, L'étrangeté du texte, essai sur Nietzsche, Freud, Blanchot et Derrida, de Claude Lévesque, qui annonce déjà une orientation préférentielle vers la réflexion profonde et l'engagement. L'année 1976 est emblématique pour le milieu littéraire et théâtral québécois. C'est l'année d'Inès Perret et Inat Tendu, de Régent du Charme, celle de « Fille commando bandée » de José Yvon, de « Le Guélion » de Louki Bercianic, de « Sainte Carmen de la Main » de Michel Tremblay, de « La Nef des sorcières, d'un collectif composé de Nicole Brossard et de Marie-Claire Blais, entre autres. 2. Je suis une maudite sauvagesse, d'Anne Atan Capèche, dans une traduction de José Maillot. Du Roman à l'imparfait, de Gilles Marcotte. Sont aussi fondées les revues Estuaire, Jeux et Lettres québécoises. Et enfin, un certain parti québécois, avec à sa tête René Lévesque, se fait élire pour la première fois. Beaulieu publie lui-même dans sa fraîche maison les récits « Blanche forcée » et « N'évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre Abel ». Dans ce dernier, il se lamente à propos de son double rôle d'écrivain et d'éditeur, l'un annihilant l'autre. « Ma vie d'éditeur m'épuise parfois, et j'ai sommeil devant ma table, juste assez conscient pour me rendre compte que le pot de vaseline dont je parlais tantôt est plutôt un pot de Vix, ce qui met lourdes conséquences. » À l'occasion du 20e anniversaire de l'éditeur en 1997, Jean Royer écrit dans « Lettres québécoises » VLB éditeur allait résumer les aspirations d'une société qui voudrait désormais s'identifier par sa littérature. Et en 5 décennies, la maison fera paraître quelques 1200 titres, un immense catalogue pour un immense engagement. Des successions. L'histoire de VLB éditeur se décline en époques distinctes, imprégnée par des changements de mains qui, paradoxalement, ont préservé son ADN. Victor Lévy-Beaulieu cède la maison à Jacques Lanctot en 1984. Sous son règne, le roman et l'essai sociopolitique se déploient. Lanctot prend des risques en publiant de jeunes auteurs comme Daniela Ferrière, Madeleine Gagnon, Michel Doré ou Marie Laberge. La maison bourgeonne. En 1990, VLB éditeur passe au groupe Sogides. Jacques Lanctot y demeure éditeur, puis quitte la maison pour fonder Lanctot éditeur en 1995. Sogides est ensuite acheté par Québecor en 2005. VLB éditeur intègre alors le bouquet de maisons d'édition aujourd'hui connu sous le groupe Ville-Marie Littérature, aux côtés de Typo, l'Hexagone, La Bagnole et les éditions du journal. C'est dans cette continuité complexe, entre héritage et mutation industrielle, qu'Alain-Nicolas Renaud incarne la mémoire et la vision contemporaine de VLB éditeur. Pour lui, l'histoire n'est pas un fardeau, mais une structure. Il pose le regard sur les figures fondatrices avec un respect lucide. Victor Lévy-Beaulieu n'est pas une figure tutélaire pour moi, mais disons que c'est une figure qui impose le respect. Jacques Lanctot aussi. Une maison, c'est surtout tous les auteurs et toutes les autrices qui sont passés et qui ont laissé leur marque. Une maison vivante. Ce qui définit VLB éditeur aujourd'hui, c'est ce double ancrage dans l'humain et l'historique. Depuis l'inclusion au groupe, où des ressources sont partagées, notamment pour ce qui est des communications, de la promotion ou de la gestion des droits étrangers, l'édition des 12 à 20 titres annuels se fait entièrement par la petite équipe conduite par Alain-Nicolas Renaud et composée des éditrices Marie-Hélène Poitras et Miruna Krachunescu et du coordonnateur à l'édition Billy Robinson. Martin Balthazar est le directeur principal du groupe Ville-Marie Littérature et veille sur la boîte depuis plus longtemps qu'Alain-Nicolas Renaud, assurant ainsi une grande stabilité des visées éditoriales. Au cours des dernières années, VLB éditeur s'est davantage concentré sur la littérature et la fiction, tout en conservant les piliers de son héritage essayistique. VLB éditeur se veut toujours une maison qui a des affinités indépendantistes, une maison littéraire qui, à sa création, avait des aspirations émancipatrices, d'avancer Renaud. Elle se réclame d'un intérêt poussé pour l'histoire du Québec et son passé syndicaliste et collectiviste. On est aussi bien sûr une maison généraliste, poursuit le directeur de l'édition, qui fait des choses qui ne sont pas nécessairement dans la ligne du parti ou dans la ligne de notre mentalité à nous-mêmes propres. Nous sommes une maison qui a également une propension, un souhait, un désir de liberté, de débat public et même de s'exposer à des débats inhabituels par rapport à nos ornières personnelles. L'investissement de VLB éditeur pour la littérature vivante est particulièrement notable avec le prix Robert Cliche du premier roman. Ce concours attire chaque année entre 100 et 150 manuscrits, offrant à la maison la chance de découvrir de nouvelles voix. Riyad Hassani-Razaki, Antoine Charbonneau-Demers, Lynn Richard ou Paul-Serge Forest sont parmi les plus récents lauréats et lauréates du prix, qui a couronné par le passé des écrivains et écrivaines comme Christine Brouillet, Robert Lalonde ou Roxane Bouchard. Monsieur Renaud insiste sur la nature collective et passionnelle du travail éditorial et fait amplement référence à ses camarades lors de l'entrevue. Pour lui, l'essence du métier réside dans l'intimité du travail sur le texte. Ce qui me fascine et me plaît le plus, c'est la dimension artisanale. C'est vraiment le travail du texte avec l'auteur. Il décrit la relation avec l'écrivain comme un échange constant, où le manuscrit sert d'intermédiaire, et où le papier continue d'être un socle. On fait un métier qui est axé sur le matériel. C'est un des derniers métiers intellectuels axés sur le matériel. À VLB éditeur, on aime le papier et sa texture. De conclure, Alain-Nicolas Renaud, ainsi, la pérennité, ce n'est pas tout changer constamment, mais construire par le temps et par les auteurs. C'était L'héritage vivant de VLB Éditeur, une entrevue réalisée par Annabelle Moreau, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
David contre Goliath. Un texte de Michel Jean, paru le 4 juillet 2026 dans la presse. Quand l'écrivain et poète Louis-Carl Picard-Sioui est né, personne ne parlait plus le Wendat depuis 100 ans. La langue des Hurons, ces alliés indéfectibles des Français au temps de la Nouvelle-France, avait disparu. Il existait des dictionnaires, des grammaires et des catéchismes que des missionnaires jésuites et récollets avaient rédigés autrefois. S'y trouvaient les secrets de la structure, les racines et la syntaxe de la langue Wendat. Grâce à eux, au début des années 2000, sous l'impulsion du Conseil de la Nation Huron-Wendat et de chercheuses de l'Université Laval, le projet Yawenda a pu faire revivre la langue. L'orthographe a été normalisée, des enseignants formés et, pour la première fois depuis des générations, la langue Wendat résonnait à nouveau. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'un féroce combat pour la survie. Louis-Carl Picard-Sioui a maintenant 50 ans. L'autre jour, il écoutait dans l'auto une chanson en Wendat. Son fils, Taya Nonkye, s'est mis à la chanter lui aussi. Les phrases lui venaient spontanément. Pour lui, c'était naturel de prononcer ces mots. Ça m'a rappelé que les langues autochtones doivent reprendre leur place. Les Québécois et les membres des 11 autres nations qui partagent le même territoire ont en commun cette peur de voir leur langue disparaître. Avec à peine 8 millions de locuteurs, face à près de 400 millions d'anglophones, le français est le dernier village gaulois d'Amérique. Le Québec mène depuis longtemps ce combat pour la survie du français. Son gouvernement utilise son pouvoir législatif pour le protéger. La loi 101 bénéficie d'un large appui populaire. On pourrait croire que les Québécois sont bien placés pour comprendre les craintes des premiers peuples. Après tout, ils ont en commun la même peur de disparaître. La différence, c'est que la menace pour les Premières Nations n'est pas l'anglais, mais le français. Aucune loi 101 ne protège les 11 langues indigènes. Cela pose la question : quelle place le Québec est-il prêt à faire aux langues parlées par les Premières Nations ? Car toutes, aujourd'hui, ont un fusil posé sur la tempe et sont considérés comme menacés. Ma langue maternelle est le français, car je suis né à Alma. Si vous ne venez pas au monde dans la communauté, vous avez peu de chances d'apprendre l'innu. Et encore là, beaucoup de parents ont cru protéger leurs enfants en ne leur apprenant pas leur propre langue. Ma petite cousine Charlène, qui est née et a grandi à Mashteuyash, par exemple, ne parle que français et anglais. Ma mère, qui parlait d'abord innu, ne voulait pas que j'aie tous les problèmes qu'elle a connus et elle n'a pas voulu m'apprendre notre langue, m'a-t-elle expliqué un jour. Entendre ce genre de choses fait mal. Au moins, on se dit que c'était une autre époque. Pourtant, il y a 4 ans à peine, le Festival international de la chanson de Granby a exclu le rappeur Samian parce que ses chansons étaient en Anishinaabe. L'affaire avait soulevé un tollé. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a rappelé que les langues autochtones ne sont pas des langues étrangères et qu'elles ne menacent pas le français. Mais bon. L'eau a coulé sous les ponts depuis 2022. Non? Pas tant. Non. En 2025, Louis-Carl Picard-Sioui a été invité dans un festival de poésie. Et quand il s'est présenté dans un café pour une lecture publique, la responsable de l'activité lui a dit que, s'il voulait lire un texte en Wendat, il devait obligatoirement commencer par lire une version française. « On m'a dit que c'était le règlement », m'explique-t-il, encore secoué. Je lui ai répondu « Tu me dis speak white tant qu'à y être ». Sauf qu'il n'existait pas de traduction française du recueil de poèmes. « C'est comme ça, on est au Québec », a-t-il alors eu comme réponse. Louis-Carl Picard-Séouy a fondé et dirige le Salon du livre des Premières Nations. Pour que ce qui est arrivé à Samiane et lui ne se reproduise plus, il a créé le Pacte pour la reconnaissance et la célébration des langues autochtones. L'initiative vise à rassembler des organismes culturels, des diffuseurs et des institutions francophones autour d'un engagement simple. De ne jamais imposer le français comme condition d'expression artistique aux artistes autochtones. « La société civile a du pouvoir », dit Louis-Carl Picard-Séouy. « C'est la responsabilité de tous les Québécois que les langues autochtones survivent et se développent. » Jusqu'à maintenant, une soixantaine d'organismes et institutions ont signé le pacte, comme les théâtres Denise Pelletier à Montréal et le Petit Champlain à Québec, le Salon du Livre de Montréal, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Festival de la chanson de Tadoussac. C'est un début. L'art est un vecteur de dynamisme pour les langues, dit Louis-Carl Picard-Séouy. Cela a été le cas pour le français au Québec depuis la Révolution tranquille. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose avec les langues autochtones pour les premiers peuples? Mon ami, Louis-Carl, est un poète et un rêveur, mais c'est aussi un homme d'action. À peine 7600 personnes parlent l'innu et moon dans le monde, toutes au Québec, à part deux petites communautés à la frontière du Labrador. Et c'est la langue autochtone la plus parlée au Québec. Vous voyez, on est toujours le David de quelqu'un. Et il y a des combats qui méritent qu'on se tienne debout. Car parfois, David gagne contre Goliath. Les Québécois sont bien placés pour le savoir. C'était « David contre Goliath », un texte de Michel Jean, paru le 4 juillet 2026 dans « La Presse ».